informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, des frondeurs du CDP lancent le mouvement pour la libération. Hier, ils ont appelé à la démission du président du Faso, Roch Kabore. L'avenir de l'éducation burkinabé en discussion depuis hier à Ouagadougou, des assises nationales sous fond de crise sécuritaire et sanitaire. Procès Thomas Sankara, trois témoins sont passés à la barrière, parmi eux Étienne Traoré, ex-membre de l'Union des communistes burkinabés. Il affirme que la mort de Thomas Sankara a été préméditée. Lutte contre la drogue au Burkina, 815 kg de chanvre indien ont été saisis et incinérés par la brigade ville de gendarmerie de Bobo. Et puis 5 jours après les attentats de Inata, les Burkinabés s'interrogent et nous aussi, ce sera dans l'éditorial de ce vendredi. Voilà pour le sommaire, bienvenue. Roch, la solution est devenue le problème et il doit démissionner. C'est le principal message livré hier par la coordination des associations de la société civile organisée en un mouvement nouvellement créé dénommé Mouvement de la Libération. Ce mouvement a exprimé au cours d'un point de presse tenu hier son indignation face à la recrudescence des attaques terroristes que connaît le Burkina Faso. Il appelle par ailleurs à une mobilisation pour une marche prévue le 27 novembre. Jacob Compaoré et Charles Da pour le compte-rendu.
L'heure est grave et il faut libérer le pays de leaders terroristes, indique le mouvement pour la libération du Burkina. Selon ses membres, le président Roch Kabore est responsable de ce qui arrive au peuple et il doit rendre le tablier. Adama Tendre Bego, membre du mouvement.
En démocratie, le président est élu par le peuple. S'il n'arrive pas à résoudre les problèmes du peuple, il doit rendre le tablier. Et nous pensons que la solution actuellement, c'est le départ sans condition du président Kabore.
La menace perdure et il est temps de mettre fin au dysfonctionnement pour sauver le Burkina, à en croire les membres du mouvement. Juscelin Consega.
On ne voit pas qu'est-ce qui peut encore changer, qu'est-ce qui peut évoluer. Il parle de dysfonctionnement au niveau de l'armée. Le dysfonctionnement de l'armée, ça fait 6 ans que tout le monde constate et que lui-même, il en parle. Il faut que ça prenne fin. On ne va pas tous mourir. Il a dit, même s'il faut qu'on aille jusqu'au dernier des Burkinabés, nous, on ne va pas attendre d'aller jusqu'au dernier des Burkinabés. Il faut sauver le Burkina Faso.
Ce mouvement interpelle par ailleurs l'opinion publique à prendre sa responsabilité pour le retour de la paix au Burkina.
Et alors que le Burkina achevait hier 3 jours de deuil national décrété suite à l'attaque d'Inata, l'UNAPOL, l'Union Police Nationale, a manifesté sa frustration après avoir remarqué, je cite, que les victimes policières tombées le dimanche 1er novembre et le vendredi 12 novembre, soit 48 heures avant le drame de Inata, ont été ignorées dans ce deuil national et même dans le discours des autres autorités. Fin de citation. L'UNAPOL invite donc l'ensemble des policiers, les familles de ces vaillants policiers tombés, ainsi que toutes les personnes éprises de justice et soucieuses de la cohésion sociale, à observer un deuil de 96 heures allant de ce vendredi au lundi 22 novembre à 24 heures. C'est dans un contexte d'insécurité mais aussi de crise sanitaire que se tiennent à Ouaga les assises nationales sur l'éducation. Jusqu'au 20 novembre, 12 thématiques seront développées pour rendre l'école plus résiliente et plus productive pour l'avenir des enfants. La cérémonie d'ouverture de ces assises, présidée par le président de l'Assemblée nationale, représentée par Bassio Nestor Bassière, a connu la présence du président du Faso. Les détails avec Charles Da.
En dépit des efforts consentis, ces acquis sont régulièrement sapés par cette nouvelle guerre qui nous impose des groupes terroristes. Conscients de l'importance de l'école dans le combat que nous menons pour un mieux-être de nos concitoyens, nous ne céderons pas aux menaces de cet obscurantiste qui veut fermer nos écoles. L'école burkinabé doit vaincre et avec elle, c'est le peuple burkinabé tout entier qui sortira victorieux de cette guerre.
Le temps est donc donné par le président du Faso, repenser l'école, surtout dans ce climat d'insécurité. Il est donc temps pour le gouvernement de sauver l'école dans les zones à fort défi sécuritaire. Pour y parvenir, il invite les acteurs du monde éducatif et l'ensemble des forces vives à faire des propositions afin d'asseoir une école de qualité, inclusive et accessible à tous. L'éducation est un droit pour chaque enfant, un devoir de chaque parent et une obligation de toute la communauté, d'où la nécessité d'approfondir davantage les réflexions sur les réformes du BPC et du baccalauréat qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Stanislas Waro, ministre de l'Éducation nationale.
C'est une réflexion qui doit se mener pour le développement du système. Il y a la question du BPC où il y en a qui considèrent que tous les coefficients doivent être alignés. Parce que c'est après le BPC que les options se décident. Il y en a qui ne sont pas d'accord. La suppression du second tour au BPC a été abordée. Il y en a qui sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Les assises vont faire des propositions. Mais ce que je voudrais dire, les assises ne sont pas des instances de décision. Ce sont des instances de réflexion, de proposition de solutions. Les instances de décision, c'est le Conseil des ministres. Donc, pour le moment, nous, le BPC comme le baccalauréat feront l'objet du second tour à cette session. Il n'y a aucun problème. Ce sont les réformes de l'année dernière qui vont se poursuivre.
À l'issue de ces assises nationales, un projet de pacte pour le renouveau du système éducatif sera présenté au Conseil des ministres pour validation. Ces assises nationales ne connaîtront pas la participation des partis politiques affiliés au CEFOP, une absence que le ministre de l'Éducation nationale qualifie d'absurde.
La crise sécuritaire que connaît le Burkina a pour conséquence le déplacement massif des populations, une situation qui a causé la fermeture de nombreuses institutions financières. Hier, s'est ouvert à Ouagadougou la deuxième édition du cadre national de concertation des acteurs de l'inclusion financière et ces deux jours de réflexion doivent permettre aux acteurs de poser les bases pour un meilleur accès aux produits et services financiers de ces populations. Abdulaziz Zoulabou.
L'inclusion financière permet aux ménages, aux petites et moyennes entreprises, de contribuer à la création de la richesse à travers des outils de maîtrise de leurs finances. D'où la pertinence du thème qui est « Inclusion financière et défis sécuritaires au Burkina Faso, quelle innovation pour un meilleur accès des populations aux produits et services financiers ?» Lin Yen, secrétaire permanent de la promotion de l'inclusion financière.
Il y a d'abord l'enjeu de sur l'offre des services financiers qui est menacée. Parce que quand il y a l'insécurité, alors ceux qui offrent les services financiers, naturellement le premier réflexe est de sécuriser leurs activités. Alors ça ferme, alors que le taux d'inclusion même est faible. Alors donc si eux ils ferment, c'est un problème. Deuxième enjeu, c'est par rapport à la demande. Les gens sont en insécurité, donc ils n'ont plus l'esprit aux opérations financières et autres.
Selon la BCAO, il y a environ 6 millions d'adultes qui n'ont pas encore accès ou qui ont perdu l'accès aux services financiers au Burkina. Lin Yen, secrétaire permanent de la promotion de l'inclusion financière.
Déjà au niveau du gouvernement, donc un travail énorme est fait par le ministère chargé de l'action sociale pour stabiliser d'abord les zones d'insécurité et ensuite bien sûr nous avons fait un travail d'éducation financière pour déjà redonner confiance aux populations qui croient à l'insécurité pour qu'ils puissent reprendre les activités génératrices de revenus.
L'objectif du gouvernement est de porter à 75% d'ici 2023 la proportion de la population adulte ayant accès et utilisant les services financiers adaptés.
Procès Thomas Sankara, trois témoins sont passés à la barre du tribunal militaire hier jeudi. Damba Jean-Marc Palme, Étienne Traoré et Bonissa Arsène Yé ont témoigné de ce qu'ils ont vu et entendu sur les événements du 15 octobre 1987. Il a été essentiellement question des divisions au sein du CNR, Conseil National de la Révolution, mais aussi de la version retenue par le Front Populaire de Blaise Compaoré pour faire accepter le coup d'État au Burkina et ailleurs. Abdoul Fattah Tiemtouré nous fait le point de cette audience.
Des collaborateurs directs de Blaise Compaoré après le coup d'État du 15 octobre livrent leur part de vérité. Jean-Marc Palme, premier ministre des Affaires étrangères du Front Populaire, a été le premier à la barre ce jeudi. L'enseignant chercheur, membre du Conseil national de la Révolution à l'époque, à travers son organisation, le GCB, confirme l'ambiance délétère qui régnait avant le coup d'État. La tension était vivante au sein du CNR, a-t-il dit, ce que confirment Étienne Traoré et Bonissa Arsène Yé. À titre personnel, Jean-Marc Palme confie qu'il n'approuvait pas les méthodes de travail du président Thomas Sankara. Son organisation était notamment opposée au projet de création d'un parti unique proposé par le président aux dernières heures de la révolution. Les tracts insultants contre le président Sankara, il en a aussi été question. Selon Boukari Kabore, dit Le Lion, un autre témoin, ce serait chez Jean-Marc Palme à Bobo que les tracts étaient produits à la demande de Blaise Compaoré. À la barre, Jean-Marc Palme réfute catégoriquement « Le Lion est un piteux menteur », a-t-il réagi, traitant Boukari Kabore de faible d'esprit. Fin octobre 1987, Jean-Marc Palme a été nommé ministre des Relations extérieures, le premier sous Blaise Compaoré, avec pour mission, selon ses termes, d'expliquer ce qui s'est passé et non de justifier.
Abdel Fattah, si Jean-Marc Palme ne regrette pas d'avoir cheminé avec Blaise Compaoré, ce n'est pas le cas d'Étienne Traoré, à l'époque leader syndical et membre de l'UCB.
Contrairement à Jean-Marc Palme, Étienne Traoré a avoué devant le tribunal qu'il a participé à la production de tracts critiques envers Thomas Sankara. Mais il fait la différence entre ceux-ci et les tracts dits « orduriers ». Étienne Traoré se rappelle avoir été reçu par le chef du Front populaire dès le 16 octobre. Et comme son prédécesseur, il lui a été confié des missions d'explication à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Officiellement, il fallait dire que les événements du 15 octobre ont été le résultat d'une tentative d'arrestation qui a mal tourné. « J'y croyais vraiment », affirme le témoin qui avoue avoir eu une confiance naïve en Blaise Compaoré. « Il m'a dit hier, il y a eu des problèmes entre nous, il y a eu des tirs de part et d'autre et Sankara est mort », se rappelle Étienne Traoré à la barre. Il poursuit son récit. « Il m'a dit que Gilbert a levé la main et les gens ont compris qu'il fallait tirer et ils ont tiré ». Selon le témoin, il apprendra plus tard que tout cela était faux. Il dit avoir commencé à douter quand le nouveau régime a parlé de rectification alors que Blaise Compaoré avait assuré que la révolution continuait. Le coup définitif, dit-il, c'était quand les deux ont été tués, Henri Zongo et Jean-Baptiste Lengani. Je suis allé le voir et pour la première fois, il a refusé de me recevoir, a-t-il précisé. Début de la désillusion pour le professeur qui se rend compte, selon lui-même, qu'il a été naïf. Nos chemins se sont séparés, a-t-il assuré à la barre.
Bonissa Arsenye, lui, est resté aux côtés de Blaise Compaoré jusqu'à sa chute en 2014.
Bonissa Arsenye, lui aussi, a été reçu au Conseil de l'Entente dès le 16 octobre. Il dit avoir trouvé d'abord Jean-Baptiste Lengani et Henri Zongo, deux des chefs historiques de la Révolution. Je leur ai demandé où se trouve le capitaine Thomas Sankara. Le commandant Lengani a regardé une photo de Sankara qui était dans la pièce et il a dit « le pauvre ». Donc j'ai compris qu'il n'était plus de ce monde. Blaise Compaoré lui servira ensuite sa version des faits, une arrestation qui a mal tourné. Je dois avouer que j'ai été sonné, confie le témoin qui assure « j'avais des relations amicales et politiques avec Thomas Sankara ». Ce serait d'ailleurs Sankara qui l'aurait fait venir de Dakar pour rejoindre le Conseil national de la Révolution en 83. Pourtant, le témoin n'ignorait pas les tensions existantes entre les leaders de la Révolution. Si quelqu'un était membre du CNR et qu'il dit qu'il n'a pas vu ça venir, c'est qu'il y a un problème, a-t-il déclaré. Bonissa Arsenye fait néanmoins un constat, les mêmes partis qui étaient au sein du CNR se sont retrouvés au Front populaire. Donc c'était comme une continuité sans Thomas Sankara. Des partis qui étaient pourtant opposés quelques mois avant à la création d'un parti unifié. Le sujet, à en croire le témoin, devait d'ailleurs être à l'ordre du jour de la réunion de 20h du 15 octobre 1987. Finalement, elle n'aura jamais eu lieu.
Merci à Abdel Fattah Tiemtori pour ce point des auditions des témoins entendus hier par le tribunal militaire dans ce procès Thomas Sankara. Que faire face à la corruption grandissante au Burkina Faso? Telle est l'interrogation qui a fait l'objet de réflexions hier matin à Ouagadougou. C'était lors de la grande tribune d'interpellation initiée par le RENLAC, le Réseau National de Lutte Anticorruption, et l'ASELC, l'Autorité Supérieure de Contrôle de l'État et de Lutte contre la Corruption. Objectif, interpeller les autorités sur la lutte contre ce fléau au Burkina, qui est un phénomène toujours grandissant. Compte rendu de Moumouni Tamboura et Corinne Sawadogo.
La présente activité a été un cadre d'échange et de partage qui permettra d'interpeller les trois pouvoirs et le peuple à s'unir pour lutter efficacement contre la corruption. Des recommandations sont faites pour interpeller les acteurs du privé et du public dans la lutte contre la corruption et le terrorisme. Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC.
C'est une tribune pour interpeller les trois pouvoirs ensemble pour que ces trois pouvoirs-là puissent écouter ce que ces structures de contrôle étatiques et non étatiques retiennent comme phénomène qui montre la présence de la corruption dans les secteurs publics, mais aussi recevoir des recommandations de ces institutions-là qui sont susceptibles d'aider ces différents pouvoirs à améliorer la situation du Burkina Faso en matière de lutte contre la corruption et indirectement aussi de lutte contre l'insécurité, que vous savez a pris des proportions aujourd'hui plus qu'inquiétantes.
Parmi les recommandations qui sont faites, il est demandé l'exemplarité des trois pouvoirs.
Le plus important, ce que nous avons demandé à ces différents pouvoirs, c'est que ces différents pouvoirs-là puissent être exemplaires, que ces différents pouvoirs puissent montrer la voie à suivre, pour que ces différents pouvoirs s'engagent avec une volonté politique plus affichée dans la lutte contre la corruption. Parce que nous nous disons que c'est le principal. Si ces différents pouvoirs-là donnent l'exemple, nous pensons que certains citoyens, et nous particulièrement, structures de lutte contre la corruption, nous aurons les coudées plus franches pour avancer dans la lutte contre la corruption.
Selon le dernier rapport du RENLAC, le quartier gagnant reste la police municipale, la douane, la police nationale et la direction générale des transports terrestres et maritimes. Le taux de corruption au Burkina Faso, qui est de 40%, est resté stable.
Un reportage de Moumouni Tamboura et Corinne Sawadogo avec la voix de Régis Bonny. Et comme annoncé en titre, la compagnie de la gendarmerie de Bobo Dioulasso a saisi et incinéré plus de 800 kg de cannabis hier jeudi. C'est le fruit d'une collaboration entre la population et les éléments de la gendarmerie. Antoine Bonny.
815 kg de cannabis d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA, incinérés ici par la gendarmerie de Bobo Dioulasso. Cette drogue a été saisie à l'issue de deux opérations menées par les Pandores en octobre et en novembre 2020. Dotés de motocyclettes et de moyens de communication, les trafiquants font transiter la drogue par la Bousse pour la ville de Bobo Dioulasso et d'autres pays voisins. À l'issue des opérations, aucun trafiquant n'a pu être interpellé. Le commandant de la brigade ville de la gendarmerie de Bobo Dioulasso explique. Souleymane Ouedraogo.
C'est au regard de la faiblesse de nos effectifs sur le terrain, du temps qu'il faisait, parce que c'est des opérations qui sont déroulées très tard dans la nuit, autour de 2h, 3h du matin. Et connaissant la sensibilité de la mission et la situation sécuritaire ambiante, on a pu, lorsqu'on a dû trouver les produits, les intéressés n'étaient pas à côté. Pouvoir récupérer les produits en même temps, mettre la main sur eux, c'était pratiquement difficile. Nous avons quand même préféré récupérer les produits et continuer à les rechercher. Et avec la collaboration de la population, on finira par avoir des informations qui vont nous permettre de mettre la main sur eux tôt ou tard.
Et c'est le lieu pour le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Bobo Dioulasso d'appeler la population à plus de collaboration. Capitaine Albert Sandudi.
Peut-être que la vente de ces produits allait permettre d'alimenter des groupes criminels organisés. Et donc, à travers les informations que les populations sont souvent amenées à donner, elles contribuent efficacement également à la lutte contre le terrorisme. Donc, une fois de plus, c'est l'occasion pour nous d'appeler la population, chacun à son niveau, à mettre du sien pour que nous puissions venir à bout de l'insécurité ou en tout cas en réduire ses effets néfastes sur notre société.
Le secrétariat permanent de lutte contre la drogue et le tribunal de grande instance de Bobo Dioulasso présents à l'incinération ont tous salué l'efficacité de la gendarmerie. Antoine Bonny, Bobo Dioulasso, Radio Omega.
Place maintenant à l'édito, comme tous les vendredis, 5 jours après les attentats de Inata qui ont fait 53 morts selon le dernier bilan officiel. Les Burkinabés s'interrogent, le président du Faso en tête, Roch Kabore, révolté d'apprendre que la troupe a manqué de rations alimentaires. Voici l'éditorial d'Omega Media, il est signé Ouezin Louis Houlan.
"53 morts à Inata, c'est un drame, à vous couper l'appétit. Ce bilan est-il provisoire ou définitif ? Jusque-là, le gouvernement ne dit pas quel était l'effectif du détachement, alors que ce chiffre ne devrait plus être à l'heure actuelle un tabou stratégique après le forfait de dimanche dernier. Les soldats ont manqué de garba, le fameux riz militaire, comme l'atteste cette fameuse correspondance, au sujet de laquelle Rochman Christian Caboret a tapé du poing sur la table. Nous ne devons plus entendre parler de questions d'alimentation dans notre armée. Nous ne devons plus entendre parler de questions de primes dans cette armée, a-t-il martelé. Roch est fâché et il n'a pas tort. Son entourage est-il sincère avec lui après avoir aménagé et réaménagé le commandement, allant jusqu'à concéder le principe de militaire dans l'exécutif, chose qu'il n'a jamais souhaitée, il en vient à découvrir que les boys sont affamés au front. Tout ne se dit pas au sein de la grande muette, mais assurément ici passent des choses bizarres. Les sanctions contre les commandants de la première région de gendarmerie et du groupement des forces du secteur au nord ne devraient pas manquer de nous interroger sur le fait qu'il était impossible de rallier Inata par la route. Impossible aussi pour la relève en attente à Djibo de monter au front avancé malgré les détresses lancées des semaines avant par le capitaine du groupe basé à Djibo. Pas vraiment surprenant, avec des couvre-feux et états d'urgence reconduits mécaniquement par des gouverneurs depuis 5 ans qui ne maîtrisent pas forcément les tenants et les aboutissants, qui ne sont que des boulevards ouverts aux groupes terroristes qui ensemencent des mines sur nos routes les nuits venues, devant l'incapacité des FDS à quadriller le territoire entier alors que les populations pouvaient aider à la veille. C'est aussi la conséquence d'une stratégie de défense caserne que nous avons longtemps dénoncée et qui révèle ses limites malheureusement, payées encore cash par les garçons, aussi bien formés et braves soient-ils. Il y a longtemps que les groupes terroristes ont compris cela et ont décidé de porter le harcèlement dans les dortoirs des soldats. Il y a longtemps que les djihadistes réclament le face-à-face, ce corps à corps tant attendu. Eux vont au front pour mourir, alors que nos soldats y vont pour retourner nourrir femmes et enfants. C'est la conséquence, enfin, de l'inertie d'une population civile qui a délégué sa sécurité à des professionnels des armes et qui ne se soucie de rien. L'urgence est aussi dans le déploiement des aéronefs dans les zones chaudes, de sorte à réduire les temps d'intervention. Prendre le dessus des renseignements est vital pour notre armée, bien consciente que qui détient l'info a le dessus, que l'effet surprise est une arme fatale, se rend aussi à l'évidence que toutes les attaques ont lieu à l'aube et au crépuscule, si préparées conséquemment, est un réflexe de survie pour la troupe. Roch sera-t-il entendu? Je dis et je répète, ces 5 mots du président Caboret sont assez évocateurs. Disons-le, l'heure est grave.
Poison, lui ou l'on à l'instant pour l'éditorial. C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Fidel Compaoré. Merci de nous avoir suivis. Radio Omega, l'info en direct.